Mais je vous demande de trouver 1 Thessaloniciens, chapitre 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Alors les livres ou les lettres, l'épître veut dire lettre de Paul, l'apôtre Paul aux païens, ne sont pas datés, mais en les lisant, nous avons des indices à qui il les a écrits et même quand il les a écrits. Et la plupart des étudiants de la Bible estiment que 1 Thessaloniciens est la deuxième lettre écrite par Paul. La première serait Galates. Et puis nous avons 1 Thessaloniciens. Et cette lettre est écrite quand Paul est à Corinthe. Alors on ne va pas le faire, mais vous pouvez plus tard dans la journée prendre Actes et lire Actes chapitre 17. Et vous allez lire de la visite de Paul à Thessalonique. Donc ça c'est cette ville à qui il écrit. Et puis il va quitter Thessalonique, il va partir en Bérée, à Bérée, une autre ville. Et de là, il va partir à Athènes. Vous avez peut-être entendu parler de Paul à Athènes. Depuis Athènes, il va renvoyer Timothée vers Thessalonique. Et Tite, il va plus tard l'envoyer même jusqu'à Philippe. Lui-même, il va rester quelque temps à Athènes. Il va prêcher. On a une prédication de Paul racontée en Actes 17. Et puis, quand il quitte Athènes, il va où? Est-ce que quelqu'un sait? Il va aller à Corinthe. Et c'est là qu'il va fonder l'église à Corinthe. Et plus tard, il va écrire une et même deux lettres à l'église de Corinthe. Mais c'est lorsqu'il est à Corinthe qu'il va écrire ces deux lettres à la ville de Thessalonique. Alors, ce qui est intéressant dans la vie de cette église, c'est que Paul n'a pas pu rester très longtemps. Vos pasteurs sont restés beaucoup plus longtemps que Paul a pu rester à Thessalonique. Il est là peut-être que 3 semaines. Et puis il est chassé, il y a une persécution qui s'élève, on veut à sa vie, et l'église est forcée de nuit à prendre Paul de nuit et l'amener hors de la ville, et il doit partir. Et donc Timothée, Tite va partir avec lui. Et si vous regardez la fin du chapitre 2, il va dire au verset 17, « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi, voulions nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois. » C'est-à-dire, ils ont essayé deux fois, Paul a essayé deux fois, de voir comment il pouvait rentrer, visiter encore l'église de Thessalonique. Mais il dit, Satan nous en a empêchés. Il va parler plus tard au chapitre 3 du fait que Dieu gère même les actions de Satan, mais il ne peut pas rentrer voir cette église. Il est séparé d'eux. Mais il est très attaché à cette église. Regardez verset 19, 2-19. Quelle est en effet notre espérance? Ou notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi? C'est vous, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas rentrer, il est trop connu, le danger est trop grand. Il décide d'envoyer Timothée. Timothée était avec Paul, voyageait avec Paul, avec Silas aussi. Mais Timothée était plus jeune, Timothée était plus discret. Et Timothée, apparemment, était moins connu dans la ville. Et ça, c'était un atout. Donc Timothée peut rentrer jusqu'à Thessalonique sans se faire remarquer. Timothée peut leur apporter des nouvelles de Paul. Il peut aussi récolter des nouvelles pour amener vers Paul. Et donc c'est Timothée qui est envoyé à Thessalonique. Et lorsque Timothée revient visiter Paul à Corinthe, c'est là qu'il écrit cette lettre. D'accord ? Donc, il écrit cette lettre après que Timothée est allé leur faire visite et qu'il a ramené des nouvelles à Paul. Et son cœur est rempli de joie, il écrit cette lettre dans la joie. Et donc, regardez le début du chapitre 3. Ça raconte un peu ce que je viens de vous dire. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ. Alors il dit, verset 1 encore, c'est pourquoi impatients que nous étions. Peut-être vous avez une autre traduction devant vous. J'espère que vous regardez la Bible. Impatient, je trouve que ce n'est pas un mot assez fort en français. C'est un mot pour supporter. Et je parlais hier avec les hommes qu'on peut chercher ce même mot ailleurs. Et en effet, on trouve ce même mot utilisé positivement en 1 Corinthiens 9, 12. Je vais vous lire ce verset. Nous supportons tout afin d'éviter de faire obstacle si peu que ce soit à l'évangile de Christ. Mais donc on peut le traduire comme ça. On ne pouvait plus le supporter. On ne pouvait plus le supporter. Il y a une traduction qui dit « Nous n'avons plus supporté d'attendre davantage ». La seconde 21 dit « N'y tenons plus ». La parole vivante dit « Nous n'avons pas supporté d'être plus longtemps sans nouvelles de vous ». Une autre traduction dit « Nous n'avons plus pu supporter cette attente ». Comme nous ne pouvions plus attendre. Et ce n'est pas une seule fois qu'il le dit, c'est deux fois qu'il le dit, car nous le retrouvons la même expression au verset 5, regardez le 3-5, quand il dit « Ainsi ne pouvons supporter d'attendre davantage ». Dans mon impatience, peut-être vous avez la traduction, mais c'est le même mot. « Ne pouvons supporter d'attendre plus ». Deux fois il dit « Je ne pouvais plus, il me fallait avoir des nouvelles ». Alors, de quoi voulait-il avoir des nouvelles? Est-ce que vous avez été avant dans une situation où le manque d'informations vous a terriblement angoissé et troublé? J'ai un souvenir assez vif quand on habitait à Toulouse, c'était avant de venir à Bordeaux. C'était à l'ancienne époque, hein, avant l'internet, avant les portables. Et mon papa est parti le matin, et puis il n'est pas revenu. Et ma mère commençait à s'inquiéter. Jusqu'au point où elle s'est mise à appeler tous les hôpitaux de la région. Pour demander si il y avait un certain Robert Bixby qui était. Et je me rappelle finalement quand il est revenu, les émotions de ma mère, ça a changé d'angoisse à la joie et puis à l'irritation parce qu'il n'avait pas donné de ses nouvelles. Mais tout allait bien pour lui. Mais ce manque d'informations l'a vraiment angoissé. Et peut-être vous pouvez penser à une telle situation. Et là, nous trouvons l'apôtre dans cette situation. Il n'a pas de portable, il n'a pas d'internet, il ne peut pas envoyer un SMS. Et il est dans l'angoisse, il le ressent dans ses émotions. Il est inquiet pour eux. Mais de quoi voulait-il des nouvelles? Regardez le verset 1. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de quoi? De votre foi. Et si vous soulignez dans votre Bible, je vous encourage à souligner ces deux mots. Votre foi. Et puis regardez le verset 5. Ainsi, dans mon impatience, c'est la même expression, hein, ne pouvant plus supporter d'attendre davantage, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de quoi? Allez, aidez-moi ici. Hein, de votre foi. Là, vous pouvez le souligner aussi. Dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté, que nous n'ayons travaillé en vain. Regardez le verset 6. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de quoi? De votre foi. Là, une troisième fois, vous pouvez le souligner. Et de votre amour. Verset 7. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, Nous avons été consolés à votre sujet. Pourquoi? Parce que tout le monde est en bonne santé. Non, à cause de quoi? Votre foi. Ça fait, on est à 4, c'est ça? Car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Verset 10. Nuit et jour, nous prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à quoi? Votre foi. Si vous soulignez ces expressions, chaque fois que vous lisez, ça va ressortir. Vous allez voir le sujet de ce paragraphe. Ce que Paul ne pouvait pas supporter était un manque de nouvelles concernant la foi des membres de cette église. Verset 6 nous dit, mais Timothée récemment arrivé ici de chez vous, hein, donc là il est à Corinthe, et Timothée est revenu, avec de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Alors imaginez que Timothée rentre et Paul dit, comment vont l'église? Comment vont les membres de l'église de Thessalonique? Et Timothée dit, bon, tu sais, ils ont changé de lieu, maintenant ils vont se réunir dans un autre lieu. Ah oui, mais comment vont-ils? Ben en fait, ils vont tous assez bien, hein, ils se portent bien. Non, Paul dit, comment vont-ils? Et moi, je veux des nouvelles de leur foi. De leur foi. Et Timothée lui dit, bon, voilà, bon, le dimanche que j'étais là, il y a quelqu'un qui a joué au violon, c'était très beau, ils ont bien chanté. Non, je veux savoir comment va leur foi. Alors pourquoi cette anxiété? Pourquoi s'est-il séparé de son bras droit? Parce que Timothée était son aide de camp, si vous voulez, pour le faire partir dans cette mission dangereuse. Pourquoi ces prières? Il dit au verset 10 qu'il prie avec une extrême ardeur pour que Dieu lui permette d'aller vers eux. 5 fois, il le dit, hein, votre foi, votre foi, votre foi, votre foi, votre foi. Je pense qu'on peut tirer donc cette conclusion en regardant cela. Que l'élément le plus important de votre bien-être, et le bien-être de votre foi. Ça, c'est l'opinion de Paul. Hein? L'élément le plus important de votre bien-être est le bien-être de votre foi. J'ai fait des recherches sur Google. Et vous savez, quand on met des guillemets, on peut rechercher une phrase exacte. Alors, j'ai recherché cette phrase. Bien-être de vos enfants. Et cette phrase apparaît plus de 385 000 fois. Puis j'ai cherché la phrase, bien-être de votre corps. 300 000 fois. Bien-être de votre entreprise. 160 000 fois. Bien-être financier. 28 600 fois. Et puis j'ai mis bien-être de votre foi. Et j'ai eu le message qui vient, bon, cette phrase n'apparaît pas. Ça indique les priorités de ce monde. Mais quelles sont les priorités de l'apôtre Paul? Le bien-être de votre foi. Et attention, c'est pas que l'apôtre était indifférent au bien-être financier, hein. Il va mettre beaucoup de temps à monter une collecte pour les besoins financiers des chrétiens à Jérusalem. C'est pas qu'il est indifférent au bien-être du corps, il va même donner à Timothée des conseils pour ses maux de ventre dont il souffrait. Mais l'apôtre était convaincu que l'élément le plus important de votre bien-être est le bien-être de votre foi. En conséquence, regardez verset 7, il dit, dans nos angoisses et nos épreuves, c'est des mots forts là, ce mot angoisse, est traduit calamité en 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est un mot qui parle de contrainte et de pression quand on est pressé des deux côtés. Nous avons senti ça, des angoisses dans notre cœur. Et puis le mot traduit épreuve là, les angoisses et les épreuves. Le plus souvent, c'est traduit tribulation ou même persécution dans le Nouveau Testament. Donc il a ces pressions, ces persécutions, ces tribulations. Mais regardez encore le verset 7, il dit, « En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés. » Qu'est-ce qui pourrait vous consoler dans vos angoisses et vos tribulations? Pour beaucoup, la seule chose qui peut les consoler dans leurs angoisses, c'est quoi? L'absence des angoisses. La seule chose qui pourrait me consoler dans mes tribulations serait l'absence des tribulations. Mais regardez ce mot « dans ». En conséquence, frère, dans nos angoisses, c'est-à-dire les angoisses restent, les tribulations restent, et il est consolé. Pourquoi est-il consolé? Parce que pour Paul aussi, sa joie même est liée au bien-être des membres de cette église. Et il sait que le bien-être des membres de cette église concerne le bien-être de leur foi. Ce n'est pas l'absence de tribulation qui le console, mais le bien-être de leur foi. L'élément le plus important de votre bien-être est le bien-être de votre foi. Alors, question, est-ce que vous êtes vraiment convaincu de cela? Alors ici, au culte, c'est facile de dire oui, amen. Mais quand on se lève le lundi matin, est-ce que nous sommes convaincus que l'élément le plus important de notre bien-être est le bien-être de notre foi? Et le mardi matin? Et le mardi soir? Et le jeudi après-midi? Êtes-vous soucieux de votre bien-être, le bien-être de votre foi? Et si oui, avez-vous pu même évaluer le bien-être de votre foi? Il est fort possible que nous ayons des personnes présentes qui ne se soucient guère du bien-être de leur foi, ou qu'il y ait d'autres qui se leurrent en disant « Ouais, tout va bien !» Quand peut-être les choses ne vont pas bien. On avait une connaissance qui nous a écrit juste au mois de mai, je crois. Au mois de juin, il a été diagnostiqué avec un cancer. 24 jours plus tard, il est mort. Et c'était déjà là, il ne le savait même pas. Et parfois, le bien-être de notre foi va mal, et on ne le sait même pas. Et même en tant que chrétien, si vous regardez verset 10, on va peut-être parler la semaine prochaine, mais il peut y avoir des choses qui manquent à notre foi. Notre foi peut grandir. Mais la question se pose, que désiraient-ils si ardemment concernant leur foi? Alors vous allez imaginer que que Timothée revient à Paul, et Paul lui dit, bon, comment, parle-moi de leur foi. Et Timothée lui dit, bon, qu'est-ce que tu veux savoir concernant leur foi? Paul n'aurait pas dit, ben, donnez-moi leur témoignage encore de conversion. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, je crois, dans ce passage, c'est une deuxième vérité qu'on peut tirer, c'est qu'une profession de foi sans une persévérance dans la foi est vaine. C'est ça l'élément central de leur foi, dont Paul se soucie. Une profession de foi est importante, hein? Ça donne raison de se réjouir. Regardez chapitre 1, versets 8 et 9. Chapitre 1, versets 8 et 9, c'est un peu leur conversion ici. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, c'est là où ils étaient, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, ou en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai. Paul savait déjà cela, même avant d'envoyer Timothée, il l'a vu, il a été là quand ils ont fait ça. Ça c'est leur témoignage, leur conversion. Et Paul parle de la renommée même de leur conversion. Et vous ne savez pas le bien que peut faire votre témoignage quand vous le racontez à quelqu'un. Mais notez ceci, revenez au chapitre 3, regardez le verset 5. Il dit, « Dans mon impatience, ou ne pouvant plus supporter d'attendre, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. » C'est là où j'ai pris le mot « vain » ici. Une profession de foi sans une persévérance dans la foi est en fait une foi qui est vaine. Alors, ce n'est pas vain pour Paul ici. Hein. Paul sait bien que, par exemple, il dit en 2 Timothée que la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juge me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. Donc quand il dit, j'ai peur que ça allait être en vain, il ne pense pas à lui-même. Pour l'ouvrier, la récompense n'est pas basée sur le résultat, mais sur le travail. 1 Corinthiens 1:8 dit, celui qui plante, celui qui arrose sont égaux, chacun recevra sa propre récompense selon son propre quoi ? Travail, pas les résultats après de ce travail. Et c'est pour ça au ciel, il y aura peut-être beaucoup de surprises. Hein, il y a des gens qui ont beaucoup œuvré, peu de résultats visibles, mais beaucoup œuvré pour le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il peut dire en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, parce que vous pouvez savoir, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Si vous le faites pour le Seigneur, ce n'est pas vain. Même si plus tard, il semble que les résultats disparaissent. Donc Paul sait, tout ce qu'il fait n'est pas vain. Il aura une récompense, il le fait pour le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à examiner les résultats de notre travail autant que le travail lui-même. Galates 6, versets 4 et 5, dit que chacun examine ce qu'il accomplit lui-même. S'il découvre quelque aspect louable, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non pas en comparaison avec les autres, car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Donc, ce n'est pas vain pour Paul, ça sera vain pour qui ? Pour l'Église, hein, pour les membres, pour l'Assemblée. Tout ce travail qu'il fait pour eux, et c'est en vain après. Ces efforts pour eux rendront leur punition encore plus lourde. Et donc, une profession de foi sans une persévérance dans la foi, est une foi qui est, en fin de compte, vaine pour celui ou celle qui professe d'avoir la foi. Alors ça suggère rapidement, juste pour sortir un peu le passage, ça suggère deux options ici. Soit qu'une vraie foi ne donne aucune garantie d'un salut éternel, une option, peut-être ils ont une vraie foi, mais après la foi peut disparaître, ou deuxièmement, une fausse foi peut, pour un temps, ressembler de près à la vraie. Et la Bible dit que quand nous sommes unis à Christ dans la foi, nous sommes vraiment un avec Christ. Nous sommes morts en Christ. Il habite en nous. Et une fois qu'il habite en nous, nous devenons une nouvelle création. Et il dit même que si le Saint-Esprit est en vous, même votre corps doit ressusciter. Si celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, votre corps aussi sera ressuscité. Il y a une assurance éternelle, perpétuelle, qui est donnée à ceux qui sont réellement en Christ. Et donc, il faut prendre comme principe fondamental de la vie chrétienne qu'il faut toujours interpréter notre expérience à la lumière de la bonne théologie, hein, pas interpréter notre théologie et l'adapter à notre expérience. Parfois, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, ben, je sais qu'il était chrétien, et puis il est parti, donc je sais qu'il a perdu son salut. Mais en fait, une fois que quelqu'un est en Christ, il est à Christ. Et Dieu lui donne un héritage éternel qui ne peut se corrompre. 2 Timothée 3, 15 dit, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Et nous avons donc cette sagesse dans la Bible, et la Bible nous enseigne que tous ceux qui sont unis à Christ ne pourront jamais être séparés de lui. Romains 8, 28 dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux même qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez, ce sont les mêmes personnes. Et la Bible nous enseigne aussi que ce n'est pas tous ceux qui professent la foi en Christ qui sont réellement unis à lui. Jésus parle en Matthieu 7 des gens qui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait telle et telle chose en ton nom ?» Et Jésus dit « Ah, je vous ai connu pour un temps, et puis on a perdu connaissance. » Qu'est-ce que Jésus dit ?« Je ne vous ai jamais connu. » Hein, dans le sens de cette relation intime. Et après, Jean va dire dans sa première lettre, sa première épître, qu'ils nous ont quittés, ils sont partis pour démontrer qu'ils n'étaient jamais des nôtres. Donc nous voyons dans notre passage que Paul croyait à ces deux vérités que je viens de mentionner. Paul croyait que la Bible nous enseigne que tous ceux qui sont unis à Christ ne pourront jamais être séparés de lui. Il va le dire même à la fin du chapitre 2, verset 19, « Quelle est notre espérance? Quelle est notre joie? » Notre couronne de gloire, c'est vous devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement. Sa joie qu'il a ici maintenant est fondée sur l'anticipation. Il sait que c'est celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ, comme il dit aux Philippiens. Mais Paul croyait aussi également que la Bible enseignait que tous ceux qui professent foi en Christ ne sont pas réellement unis à lui. Et où est la preuve qu'ils sont réellement unis à Christ? Ça vient dans le temps. Ça vient dans la persévérance. Et donc, on peut dire troisièmement, dernièrement, que la vraie foi qui sauve est une foi qui persévère au milieu des afflictions. Ça persévère, parce que la foi elle-même est un don de Dieu, elle est quelque chose de miraculeux. Et ça devient la preuve même à nous-mêmes. Je continue à croire. Je ne pourrais ne pas croire. Je sais que si je disais, oh, j'abandonne Dieu, je m'en vais, je quitte ma famille, je quitte le ministère, je vais dans le monde, je sais que je pourrais le tenter comme Jonas, mais en fin de compte, Dieu va me ramener. Et ça ne vaut pas la peine de l'essayer, de créer de dégâts pour moi et pour ma famille. Parce que je suis à lui, comme on a chanté, et il est à moi. Et c'est une sécurité profonde que nous pouvons avoir. Et regardez le texte, parce qu'il parle de cela. Impatient, verset 1, donc 1 Thessaloniciens 3, 1. Que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que, voilà ce qui est important pour la vraie foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Vous voyez, les afflictions sont là, elles arrivent, mais la vraie foi ne va pas être ébranlée. Elle peut être secouée, elle peut être affaiblie, elle peut sembler être ballottée d'un côté à l'autre, mais si c'est la foi que Dieu met en nos cœurs, elle restera. Et il dit, vous savez vous-même que nous sommes destinés, c'est-à-dire destinés par Dieu à ces afflictions. Donc, les afflictions ne doivent pas faire tomber notre foi, mais elles éprouvent et la fortifient. Et donc il dit, verset 4, « Lorsque nous étions près de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez. » Ils étaient sauvés pendant que 3 ou 4 semaines, et Paul est en train de dire à ces nouveaux convertis, « Alors attention, attention, vous êtes à Christ maintenant, vous serez exposés à des afflictions. Soyez prêts, ça va venir. » C'était, il semble, un des enseignements fondamentaux qu'il donnait à ces gens. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Et en fait, on contribue au malheur, je crois, des chrétiens quand on essaye de présenter l'évangile comme quelque chose qui vous épargne de tribulation et d'angoisse. Paul l'avait, eux ils auront. Et il dit, vous le savez, ça s'est arrivé. Et donc, verset 5, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté, que nous n'ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Et voici la preuve que les choses vont bien. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous aussi nous désirons vous voir. Il y a cet amour fraternel. Timothée dit, c'est toujours là, il t'aime Paul. En conséquence, frère, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Et très important le verset 8, car maintenant nous vivons, puisque vous, quoi ? Demeurez fermes dans le Seigneur. Ça, c'est une foi qui sauve. Une foi qui sauve, la vraie foi, est une foi qui demeure ferme dans le Seigneur. Donc Paul a vu, il a vu leur conversion, il les a vus qu'ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais voici ce qu'il veut savoir, plusieurs mois plus tard. Est-ce qu'ils demeurent fermes dans le Seigneur? Est-ce qu'ils demeurent fermes dans le Seigneur? C'est une chose de professer, confesser. Il savait, il avait certainement en tête la parabole de Jésus qui dit « Ah, la semence est plantée dans plusieurs terres. » Et dans une terre, c'est enlevé tout de suite. Dans une autre terre, la Bible dit que la personne le reçoit avec joie. Mais dès que les tribulations arrivent, ces tribulations étouffent la parole. Et la personne abandonne. Et il y a une seule terre qui est appelée bonne. Et c'est la terre qui produit quoi ? Qui produit du fruit. Hein ? 30, 40, 60, pas toujours le même fruit, mais la bonne terre produit toujours de fruits. Et Paul dit, je suis tellement content, je suis tellement soulagé, consolé. J'ai des épreuves ici à Corinthe qui est dure, mais je suis consolé de savoir que vous demeurez ferme dans le Seigneur. Et c'est une consolation pour nous. Ça fait plus de 3 ans qu'on n'a pas été ici pour vous voir. C'est la première fois pour Siméon même d'être ici dans la région. Et c'est une consolation de vous voir et savoir que malgré les tribulations, malgré ce qu'on appelle les aléas de la vie, quoique tout est contrôlé par la bonne main du Seigneur, vous demeurez ferme dans le Seigneur. Et sachez que quoi qu'il arrive, des tribulations arriveront pour chacun de nous. Ne vous leurrez pas en disant « si seulement je peux changer ma situation, les choses iront mieux ». C'est un mensonge, ça, du diable. Les situations, il y a des gens qui, ils attendent la retraite, tout ira bien. Et puis, la retraite arrive et c'est encore des tracas et des difficultés. Il y aura des tribulations dans ce monde, mais réjouissez-vous, Jésus dit. J'ai vaincu le monde. Et je vous donne une paix qui n'est pas l'absence de tribulation, mais la paix dans la tribulation. Et la fin sera bonne. Une éternité auprès de lui. Alors il dit, ne craignez pas, petit troupeau, j'ai vaincu le monde. Que votre foi puisse demeurer ferme dans le Seigneur. Et comment est-ce qu'on demeure ferme dans notre foi? Eh bien, c'est le même élan que lorsque nous sommes venus à Christ pour la première fois. Qu'est-ce que nous avons fait lorsque nous sommes venus à Christ pour la première fois? Nous avons dit, Seigneur, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. Non. On est venu, comme David a dit tout à l'heure, comme des pécheurs. Seigneur, je ne t'apporte rien. Ta croix seule est mon seul bien. Et on vient encore à lui, en tant qu'enfant. Je suis reconnaissant qu'avec le Seigneur, on peut rester enfant. Hein, on peut rester cette relation. Je reste enfant, il reste père toute ma vie. Et il prend soin de lui et veut que ma foi grandisse en lui. Que Dieu aussi vous donne cette foi de demeurer ferme dans le Seigneur au milieu même des afflictions à présent. Et ça fera la joie de tous les autres qui aiment le Seigneur. Mais ça fait la joie du Seigneur Jésus. Ça fait la joie du Seigneur Jésus.